Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute du programme de Studio Tamani, il est 8h à Bagundje de la commune rurale de Gounzoura et Cercle de Gao. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition matinale dont voici les titres. Le balafon désormais inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO, la nouvelle est accueillie avec ferveur par les acteurs culturels maliens. Célébration ce 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme. Selon le défenseur des droits de l'homme, cette commémoration intervient dans un contexte de restriction de l'espace d'expression civique et politique au Mali. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a tenu un atelier final sur le projet de transformation de poissons, un cadre initié afin de mesurer les acquis et les impacts du projet. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imran Akilo Maïga, la mise en onde de Nounguiri. Le balafon, désormais inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, c'est un instrument de musique de plusieurs communautés au Mali, notamment Senoufo, Mianka et Bobo, mais aussi des pays voisins dont le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Au Mali, les joueurs du balafon et la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA, ont accueilli cette reconnaissance internationale avec joie et fierté. Cependant, ils estiment que les autorités doivent prendre des dispositions pour la valorisation et la promotion de cet instrument. Reportage d'Ousmane Nyalibouli.
Parmi les joueurs de balafon les plus connus au Mali, on peut citer Souleymane Traoré dit Neba Solo. Cet artiste balafoniste reconnu à travers le monde se réjouit de cette nouvelle. Selon lui, cette décision aura un grand impact sur le balafon.
Nous sommes très heureux de cette nouvelle. Cela va permettre à ceux qui n'accordaient pas assez d'importance au balafon de prendre soin de cet instrument de musique et pousser d'autres personnes à s'y intéresser. C'est un acte qui va révaloriser le balan de génération en génération. Les gens peuvent bien en profiter aussi.
Qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait et qu'est-ce que nous pouvons faire pour valoriser plus cet instrument? Ces questions sont de Adama Traoré, président de la Fédération des artistes du Mali. Il pense que l'État doit accompagner les centres de formation et le mettre balafon pour une réelle valorisation de cet instrument.
C'est très bien que l'UNESCO s'intéresse à un instrument qui est le nôtre. Nous devons faire en sorte que la transmission qui se fait de façon traditionnelle, que c'est le centre de transmission soit labellisé et que les maîtres de balafon soient reconnus comme étant des grands créateurs et qu'on puisse les aider à faire la transmission de l'instrument. Voilà, ça c'est quelque chose de concret qu'on peut faire.
Rappelons que cette inscription marque une reconnaissance internationale de la richesse culturelle partagée par le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Indonésie, entre autres.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. Le monde célèbre ce 9 décembre la Journée internationale de lutte contre la corruption. Cette année, la journée est placée sous le thème « S'unir avec les jeunes contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Pour des organisations de la jeunesse, la lutte contre la corruption reste un grand défi à relever au Mali, surtout dans les domaines de l'éducation, l'emploi et les formations professionnelles. Mais pour des pédagogues, les solutions à ce phénomène passent par l'exemplarité des parents et des enseignants. Intala Akbilal pour plus de détails.
La corruption est une triste réalité dans l'espace scolaire et universitaire. Cette déclaration est de Fagimba Traoré, responsable projet à l'association Laboratoire de Comptabilité ALC Mali. Selon lui, la corruption a permis à beaucoup de jeunes d'avoir des diplômes sans jamais aller à l'école.
Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup parmi les maîtrisards qui ont des licences aujourd'hui qui n'ont jamais composé. En fait, ils payent d'autres personnes qui vont aller composer à leur place. Finalement, ils vont se retrouver avec des diplômes à vrai dire, c'est juste des bouts de papier avec eux.
La corruption liée à la vente des notes et des diplômes en milieu scolaire et universitaire existe bel et bien au Mali, confirme le pédagogue Dr Seydou Loua. Des pratiques qui ont des graves conséquences sur ceux qui s'y adonnent, affirme l'enseignant-chercheur.
Quelqu'un qui n'a ni connaissance ni compétence qui arrive à obtenir les notes et un diplôme sera confronté au problème de l'employabilité parce que si on doit être compétent pour trouver un travail, bien entendu, lui aura beaucoup de difficultés pour avoir un emploi. Donc ça peut fortement entacher l'avenir de l'universitaire.
Dr Seydou Loua recommande l'exemplarité des parents et des enseignants pour lutter efficacement contre le phénomène.
Il faut qu'on arrive à éduquer les jeunes à la maison par l'exemplarité. Que le parent lui-même doit non seulement prêcher la bonne parole, mais aussi faire en sorte que l'enfant voit en lui un exemple à suivre. Deuxième solution, l'école doit montrer aussi l'exemple en luttant lutte contre la vente des noix de diplômes, les autorités aussi doivent sévir.
Rappelons qu'un plan quinquennal de la stratégie de lutte contre la corruption de plus de 6 772 millions de francs CFA avait été lancé en 2023 pour lutter contre les fléaux.
Parlons à présent de droits de l'homme. La journée internationale des droits de l'homme est célébrée ce mardi 10 décembre 2024. Au Mali, la célébration de cette journée intervient dans un contexte de restriction de l'espace d'expression civique et politique, selon la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Pour ses responsables, la situation des droits humains reste préoccupante. Mais pour son président Aguibou Bouaré affirme de tout de même qu'il y a eu des avancées. Il est joint par Ali Cissé.
Pour rappeler également un certain nombre d'acquis. Il y a tout un chapitre qui est consacré aux droits de l'homme. Dans la nouvelle constitution, l'adoption de deux codes nouveaux, à savoir le code pénal et le code de procédure pénale, avec des incidences sur l'amélioration des droits de l'homme. Au niveau des défis, il y a la question des déplacés internes à cause du terrorisme. C'est des cas de violation des droits de l'homme. Nous enregistrons des allégations d'atteinte au droit à la vie. Nous continuons d'enregistrer cela. Sans oublier la surpopulation carcérale. Il y a eu également pendant l'année des cas de disparition forcée, des cas d'enlèvement. Toutes ces questions nous amènent à dire que les droits de l'homme sont préoccupants ou continuent de l'être.
L'atelier final du projet FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur la transformation du poisson, s'est tenu la semaine dernière à Bamako. Il s'agit pour les organisateurs de mesurer les acquis et les impacts du projet et discuter sur sa durabilité. Il est financé par le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement Social. Reportage de Sita Sidibé.
Docteur Blaise Ouattara, expert en sécurité sanitaire des aliments à la FAO, indique que des femmes ont été outillées à travers les pays pour mieux faire face à la transformation des produits alimentaires, notamment les poissons.
Le projet avait pour but de développer un prototype de four amélioré qui permet de réduire ces contaminants-là. Les fours ont été distribués à des productrices de poissons fumés. Ces productrices ont été formées également pour s'assurer qu'on respecte toutes les normes pour ne pas provoquer des problèmes de santé chez les consommateurs.
De leur côté, les femmes bénéficiaires se disent satisfaites du renforcement de leurs capacités.
J'ai aussi bénéficié d'un des prototypes de four qui a été conçu.
Les fours que nous avons réussi avec la FAO ont été utiles pour nous, vu que leur rôle est capital.
Ce projet m'a permis de changer ma méthode de transformation des poissons. Actuellement, nos fours sont plus modernes.
Ce projet œuvrant dans le cadre de la transformation du poisson depuis 4 ans au Mali compte mettre fin à ses activités en janvier 2025, ont rappelé les responsables.
Direction Gao, suite aux récentes inondations, plusieurs routes du cercle de Gao sont menacées. Hier lundi, des habitants de la ville se sont mobilisés pour réhabiliter la route reliant Gao à Wabaria, un tronçon fréquenté par les animaux. À Sonia Libère également, la population s'est déployée à stopper l'avancée du fleuve afin de protéger la route qui relie Gao à cette commune et à Bourem. De même, les habitants des villages de Bagungye et Goura ont pris l'initiative de réparer la route reliant les deux localités menacées par les eaux du fleuve.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
La chronique Zoom sur nous parle des envies des femmes enceintes. Les papas en savent quelque chose, n'est-ce pas, Lala Yahara Touri?
Ma voisine Koro en fait voir de toutes les couleurs à son mari Yaya depuis qu'elle est enceinte. C'est un jour, une envie de grossesse et souvent sans tenir compte du pouvoir d'achat de son mari. Voilà le pauvre un soir en train de faire le tour des restaurants à la recherche de sushis. Il n'en trouve que très tard et il revient enfin à la maison, tout content d'avoir réussi la mission. Mais c'était sans compter avec les nouvelles envies de Koro qui ont fait surface entre-temps. Elle ne voulait plus le sushi. À 1h du matin, cette fois, son mari devait trouver des gambas à la crème fraîche avec un smoothie d'avocat, un plat qu'elle avait vu à la télé. N'ayant pas une autre alternative, il ressort pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble à ce que sa femme Koro avait réclamé. Ne parlons pas de nous autres les voisins de Koro. Nous sommes des victimes collatérales. Il suffit que tu mettes de l'huile sur le feu et tu vois Koro venir. Voisine, qu'est-ce que tu es en train de concocter là? Ça sent bon, dé. Si les jumeaux ne goûtent pas, ils auront la tâche à leur naissance. N'oublie surtout pas d'ajouter un peu de piment. Ça relève le goût. Chère sœur, il est vrai que les hormones nous jouent des tours dans cette situation. Mais soyons raisonnables au risque de causer des désagréments à nos proches.
Soyons raisonnables, c'est sur ce mot que prend fin en ce journal qui vous a été présenté par Imirana Kilomoyga. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56 à Studio Tamani. Nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Notre magazine Gouvernance et Citoyenneté fait le point sur les conditions de vie des réfugiés maliens dans le Sahel. À la date du 1er octobre 2024, on compte près de 307 000 ressortissants maliens réfugiés dont le grand nombre se trouve en Mauritanie et au Niger. Ces chiffres ont été communiqués par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Le coordinateur national du rapatriement des réfugiés souligne que la prise en charge de ces maliens est une priorité du gouvernement malien depuis le début de la crise. Toutefois, les réfugiés maliens jugent leur situation difficile dans le camp. La Aïcha Ouellet Infa.
Le Mali est l'un des pays du Sahel qui possède le plus grand nombre de réfugiés dans des pays limitrophes selon HCR. 120 000 réfugiés sont enregistrés au Niger. Plus de 3 300 vivent sur le site des réfugiés dans la commune d'Ayourou, région de Tillabéri au Niger. Zeynou Agal Hosseini vit sur ce site avec sa famille. Il indique que le moment difficile est derrière lui, même si son quotidien reste un défi.
Dans le temps, ça ne va pas du tout, mais pour le moment, nous remercions beaucoup Dieu. Côté insécurité, côté sanitaire, pour le moment ça va mieux. Si tu as un peu de moyens, tu mets un peu de marchandises dans la brouette, tu passes tout ton temps dans la journée à pousser tout ça. Si quelque chose tombe, ça peut donner ça aux enfants dans la nuit.
En Mauritanie, ils sont plus de 140 000 réfugiés au camp des réfugiés d'Emberra. Ces nombres ne cessent d'augmenter, souligne Abdulaziz Ag Mohamed, un des responsables du camp. Il déplore le départ de MSF, Médecins Sans Frontières, qui a créé une dégradation de la sécurité sanitaire.
Surtout en termes de la santé, ça infecte beaucoup les couches les plus vulnérables. Chaque jour, il y a de nouveaux arrivants. Donc vraiment, c'est une situation qui est très tendue, qui mérite quand même d'être vue, écoutée et alerter un peu l'opinion nationale et internationale sur ce point.
Les sites de Ouigouya, Djibo, Dori et Ouagadougou au Burkina Faso comptent plus de 40 000 réfugiés. Malgré l'assistance des autorités et des ONG, ces exilés sont confrontés au manque de logements et de l'insécurité alimentaire. Mohamed Attaher Ag Mohamedoun, porte-parole des réfugiés au Burkina Faso.
Les difficultés qu'on rencontre au Burkina, c'est au niveau logement et aide alimentaire. Bon, à vrai dire, le Mali, depuis qu'on est venu ici, on n'a pas eu d'aide le mois du Ramadan passé. Que la madame la ministre est venue ici nous assister, les personnes vulnérables seulement.
Pour assurer un meilleur suivi des réfugiés, il existe depuis 2015 un accord tripartite entre le gouvernement malien, les HCR et les pays d'accueil. Selon le coordinateur du rapatriement des Maliens réfugiés, ce contrôle est régulier. Mahamadou Lamine Camara.
Chaque trimestre, la délégation malienne partait dans ces pays par rapport à leur prise en charge sanitaire, par rapport à la scolarisation des enfants. Mais nous travaillons aussi à ce que le retour puisse se faire.
La mission de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés consiste à assister et à protéger les droits des personnes en détresse. Selon sa cartographie, la plupart de ces personnes en quête de refuge viennent des zones frontalières où sévit l'insécurité. Mohamed Askia Touré, représentant résident du HCR.
Du fait d'activités terroristes dans ces contrées, ce sont des réfugiés qui se retrouvent souvent dans les zones frontalières, donc notamment dans la région de Tombouctou qui est frontalière avec la Mauritanie, dans la région de Kidal qui est frontalière avec l'Algérie, mais aussi dans la région de Bankas, de Koro, soit aussi dans le Liptako-Gourma frontalier avec le Burkina Faso et le Niger.
Les HCR indiquent au moins 50 000 réfugiés maliens non répertoriés vivent en Algérie. À noter que le Mali est aussi un pays d'asile depuis son indépendance. Le pays enregistre plus de 120 000 réfugiés d'une dizaine de nationalités accueillis sur le territoire malien.